Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le numéro 13 de la publication e-débat. C'est tout récent, ça date du 25 septembre 2025 et c'est une source assez riche, on va voir, pour comprendre un peu les discussions qui animent le Maroc en ce moment.
Oui, bonjour. Effectivement, ce numéro met bien en lumière les tensions, les défis, mais aussi les perspectives qui traversent le pays. On a plusieurs chroniqueurs qui confrontent leur point de vue sur des sujets vraiment clés, la gouvernance, l'éco, la société.
D'accord. Et donc, notre but, c'est d'essayer d'en extraire les idées fortes, les points saillants, pour y voir un peu plus clair sur les enjeux marocains actuels.
Exactement. Comprendre un peu mieux ce qui se joue en matière de politique, d'économie, de social, et puis les visions d'avenir aussi.
Parfait. Alors, allons-y. Le premier gros thème qui ressort, on dirait, c'est celui de la gouvernance. Et plus précisément, cette question de la confiance, ou plutôt de la méfiance entre les citoyens et le monde politique. Le constat a l'air assez dur.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une chronique de Marwan Bouchiki qui décrit une déconnexion vraiment très très profonde. Il se base sur une enquête récente du CMC, le Centre marocain de conjoncture.
Ok. Le CMC. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette enquête auto ?
Alors, attention, le chiffre est assez saisissant. 94,8% des Marocains n'auraient plus confiance dans les partis politiques.
94,8%? Presque 95%. C'est un chiffre qui claque, comme on dit. Ça suggère une rupture quasi totale, là.
C'est énorme, oui. Une défiance massive. Et Bouchiki, il essaye d'expliquer pourquoi.
Et quelles sont les raisons qu'il avance ?
Il y en a plusieurs. D'abord, assez classiquement, les promesses électorales qui sont souvent pas tenues. Ensuite, il parle d'une sorte de brouillage idéologique. Il écrit « la droite parle comme la gauche » et vice-versa. Donc pour les citoyens, c'est plus très clair.
On sait plus trop qui est qui propose quoi.
Voilà. À ça s'ajoute bien sûr une perception assez forte de corruption, de clientélisme, et puis un point important, le manque de renouvellement des élites. On a l'impression de voir souvent les mêmes visages, et ça donne une sensation d'immobilisme.
J'imagine que ça doit particulièrement décourager la jeunesse, qui est déjà face à d'autres problèmes, comme le chômage dont on parlera sûrement.
C'est exactement ça. Bouchiki le dit très bien. Les jeunes, face à ce tableau, face aux perspectives d'emploi qui sont souvent pas terribles, ils se détournent en masse de la politique institutionnelle.
Ils cherchent d'autres moyens de s'exprimer, j'imagine.
Tout à fait. On les voit sur les réseaux sociaux, dans des mouvements associatifs. Mais les urnes, les partis traditionnels, ça les attire beaucoup moins. Ils boudent un peu ça.
Et cette crise de confiance, elle résonne de façon assez tragique avec un événement récent qui a beaucoup marqué les esprits. Ce qui s'est passé à l'hôpital Hassan II d'Agadir. Rachid Boufou s'y consacre une chronique, je crois.
Oui, une chronique très forte, intitulée « En attendant le grand reset ». Le terme anglais est un peu direct, mais il dit bien cette idée d'une remise à plat radicale peut être nécessaire.
Un grand reset. Qu'est-ce qu'il raconte Boufou sur ce drame ?
Il relate cette histoire terrible. 8 femmes enceintes décédées en une seule semaine. Dans cet hôpital public, 8 femmes.
En une semaine ? C'est effroyable. J'imagine l'émotion, la colère.
Immense, oui. Il y a eu des manifestations spontanées devant l'hôpital. Beaucoup de colère.
Et la réaction des autorités, du ministère face à ça ?
Alors, Boufou se la décrit comme tardive. Et il utilise, avec pas mal d'ironie, le mot « miracle ».
Des miracles, c'est-à-dire
Par exemple, le jour de la visite du ministre, pouf, un nouveau scanner qui était en panne depuis des mois apparemment se met à fonctionner.
Ah oui, d'accord. Pratique.
Voilà. Ou les médicaments qui étaient introuvables selon les témoignages et qui redeviennent soudainement disponibles en masse. Et puis hop, on résilie quelques contrats jugés problématiques, comme le gardiennage ou le nettoyage. On limoge quelques responsables locaux. Des mesures prises dans l'urgence, quoi.
D'accord, une réaction pour calmer le jeu. Mais Boufous, il suggère que ce drame, c'est pas juste un incident isolé, c'est ça ? C'est plus profond.
Exactement. Pour lui, c'est le symptôme de quelque chose de plus grave. Ça révèle les problèmes chroniques du système de santé publique.
C'est-à-dire, quel problème ?
La négligence, le manque criant de moyens, que ce soit matériel ou humain, une corruption présumée à certains niveaux, et puis les conditions de travail. Elles sont tellement difficiles qu'elles poussent beaucoup de bons médecins à quitter le public.
voire à quitter le pays, l'exode des cerveaux ou des médecins.
Exactement. Et il pointe aussi une responsabilité politique assez claire. Il parle de la gestion passée par d'anciens ministres de la Santé, mais aussi celle de l'actuel chef du gouvernement.
Qui est aussi maire d'Agadir, c'est ça?
C'est ça, il cumule les deux fonctions, donc il est directement concerné par ce qui se passe à Agadir.
Et face à ce constat, qu'il juge être un échec de la gouvernance dans un secteur aussi vital, il en arrive à parler de grand reset, de remise à plat.
Oui, ou de refondation, on pourrait dire en français. L'idée, c'est que face à une situation qu'il voit comme dramatique et une classe politique qu'il perçoit comme défaillante, bah peut-être qu'il faut tout revoir, redéfinir les bases.
C'est radical comme proposition.
C'est très radical. Il va même jusqu'à évoquer comme ça, comme une possibilité extrême, de mettre la démocratie actuelle en pause, temporairement. Il rappelle l'état d'exception, cet article de la Constitution qui permet de suspendre certaines libertés en cas de crise grave.
Ah oui, quand même. C'est une idée choc.
C'est une idée choc, oui. Qui montre surtout, je pense, un profond désarroi et une perte de confiance dans le système actuel. C'est plus un cri d'alarme qu'un vrai programme, peut-être.
D'accord. Cette question de la gouvernance, elle est aussi abordée sous un autre angle, le lien entre l'argent et le pouvoir. Aziz Bouquet-Setta s'intéresse à ça, à cette tendance des milliardaires qui entrent en politique.
Oui, Bouquet-Setta regarde ce phénomène au niveau mondial. Il prend les exemples de Trump aux États-Unis, Berlusconi en Italie. Il rappelle les risques que ça peut poser.
Quels risques principalement ?
Le plus évident, c'est le conflit d'intérêts. Quand on est à la fois un très grand homme d'affaires et qu'on prend des décisions politiques qui peuvent avoir un impact direct sur ses propres affaires, c'est compliqué.
Oui, c'est presque inévitable, on imagine.
Presque. Il parle aussi des affaires judiciaires qui finissent souvent par éclater autour de ses personnalités. Et puis, il note que ces gens, habitués à diriger leurs entreprises de façon très verticale, parfois peu transparente, ils ont parfois du mal à s'adapter aux règles du jeu politique, à l'éthique du service public, à la collégialité.
Et il fait un parallèle, même prudent, avec le Maroc.
Il ne l'affirme pas directement, mais il pose la question. Très clairement, il remarque qu'au Maroc, on n'a jamais autant parlé de conflits d'intérêts, d'enrichissement suspect, de corruption, que pendant les 4 années qui coïncident avec l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef du gouvernement, qui est lui-même milliardaire.
D'accord. Il met le doigt sur une coïncidence, disons.
C'est ça, il se demande ouvertement si les mêmes causes, ce mélange très étroit entre hautes fonctions politiques et grands intérêts économiques, vont produire les mêmes effets qu'ailleurs. Et il s'interroge aussi sur l'indépendance de la justice, sa capacité à traiter ces questions de la même façon pour tout le monde.
C'est une question lourde, en effet. Alors, face à ce tableau quand même assez sombre, sur la gouvernance, la confiance, est-ce qu'il y a des voix qui proposent des pistes d'amélioration ? Saïd Temsamani, par exemple.
Oui, Temsamani, lui, il plaide pour qu'on améliore la qualité du débat public.
Qu'est-ce qu'il entend par là ? Un débat de meilleure qualité ?
Un débat plus sérieux, plus rigoureux, qui se concentre sur les vrais problèmes des gens. L'emploi, la santé, l'éducation, comment on réduit les inégalités entre les régions. Il insiste sur un lien qui lui semble crucial et souvent oublié. Le lien entre le budget qu'on vote, comment il est dépensé concrètement sur le terrain, et la qualité générale de la gouvernance.
D'accord, le suivi de l'action publique.
Exactement. Pour lui, tout ça, ça ne peut marcher que s'il y a un minimum de confiance des citoyens et si les responsables politiques, les fonctionnaires, sont vraiment responsables de leurs actes. Sinon, les lois de finances, les grands plans stratégiques, ça reste juste des mots sur du papier.
Donc il faut cette confiance et cette responsabilité pour que les choses avancent vraiment. Ça nous amène logiquement aux défis économiques et sociaux, un autre grand sujet dans ce numéro d'e-débat, j'imagine.
Tout à fait. Et là, évidemment, la question de l'emploi est centrale. Najib Mikou a écrit un article avec un titre assez interrogateur. Où sont les 600 000 emplois ?
Ah oui, ça fait référence à une annonce du gouvernement, ça. Il conteste ce chiffre ?
Il le conteste frontalement, oui. Il se base sur les chiffres officiels du HCP, le Haut Commissariat au Plan, qui est quand même l'organisme de référence pour les stats au Maroc.
Et que disent les chiffres du HCP, selon Mikou ?
Il raconte une histoire assez différente. Mikou rapporte que le Maroc a en fait perdu des emplois nets en 2022, pas énorme, 24 000, mais quand même, et surtout en 2023, là, grosse perte, 157 000 emplois en moins.
Ah oui, c'est pas du tout la même chose.
Non. Alors, il y a eu un léger gain net en 2024, autour de 82 000 emplois créés. Mais si on fait le bilan sur les 3 dernières années, on est toujours en négatif, moins 99 000 emplois.
Moins 99 000, donc on est très, très loin des 600 000 créations annoncées par le chef du gouvernement. C'est un sacré décalage. Est-ce que Miku regarde aussi le type d'emploi créé ou perdu?
Oui, et c'est un point très important. Les quelques emplois créés récemment, c'est surtout dans les services et le BTP. Et c'est souvent des emplois précaires ou peu qualifiés.
D'accord. Et pendant ce temps?
Pendant ce temps, le monde rural continue de perdre massivement des emplois. Surtout les emplois non rémunérés, dans l'agriculture familiale, ce genre de choses. Mais surtout, Miku met en avant deux chiffres qui sont vraiment, vraiment préoccupants.
Lesquels?
Premièrement, le taux de chômage des jeunes, les 15-24 ans. Il frôlerait les 50%.
La moitié?
Presque un jeune sur deux sans emploi. Ça fait froid dans le dos. Et ça explique sans doute une partie de la défiance politique dont on parlait tout à l'heure. Très probablement. Et l'autre chiffre alarmant, c'est le taux d'activité des femmes. Il stagne autour de 19%. On est très loin de l'objectif de 30% que le gouvernement s'était fixé pour 2026.
Donc le bilan emploi est mauvais et en plus très inégalitaire. Est-ce que Miku critique aussi les politiques économiques elles-mêmes?
Oui, il va plus loin que les chiffres. Il pointe du doigt la faible capacité de la croissance marocaine à créer beaucoup d'emplois. Selon lui, c'est parce qu'on investit trop dans le capital, dans les machines, et pas assez dans la main-d'œuvre.
D'accord. Des investissements peu intensifs en emploi.
C'est ça. Il critique aussi le plan agricole Green Generation, qui a succédé au plan Maroc Vert. D'après son analyse, ça n'a pas vraiment amélioré la situation des petits paysans. Et enfin, il regrette que le soutien aux TPME, les très petites, petites et moyennes entreprises, soit si lent et si insuffisant.
Alors que c'est elles qui créent le plus d'emplois potentiellement.
Exactement, c'est là que se trouve le principal gisement d'emplois. Mais elles ne sont pas assez aidées, selon lui.
Un tableau économique et social assez tendu, donc. Autre chantier majeur, l'éducation. Abdelghani El Haras s'est penché sur l'école publique.
Oui, El Haras rappelle d'abord un chiffre clé. L'école publique au Maroc, ça concerne 86% des élèves. C'est vraiment le cœur du système.
Le pilier central. Mais un pilier qui fait face à d'énormes défis, non?
Oui, des défis immenses. Les classes surchargées, on connaît, les infrastructures souvent en mauvais état, surtout en milieu rural, de fortes inégalités, que ce soit dans l'accès à l'école ou dans la réussite. Le problème de l'abandon scolaire aussi, c'est compliqué.
Il y a pourtant des réformes en cours, non? On entend parler de feuilles de route, d'écoles pionnières.
Oui, El Haras les mentionne. La feuille de route 2022-2026 pour l'école, le programme des écoles pionnières, le pacte ESRI 2030 pour le supérieur et la recherche. Il y a des choses qui sont lancées.
Mais il appelle à aller plus loin, j'ai l'impression. Il parle de révolution culturelle et pédagogique, c'est bien ça?
Exactement. Pour lui, ça ne suffit pas de changer les programmes ou de rénover les murs. Il faut un changement plus profond, dans les têtes, dans les méthodes.
C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, selon lui?
Il insiste beaucoup sur l'importance d'intégrer la culture de l'entrepreneuriat dès le plus jeune âge, pour développer l'initiative, la créativité. Et surtout, il plaide pour qu'on adapte beaucoup plus vite et beaucoup mieux les formations aux besoins réels du marché du travail. Un marché qui change tout le temps.
Donc former pour les métiers d'aujourd'hui et de demain, il cite des secteurs précis?
Oui, il parle de la santé, de l'ingénierie, des énergies renouvelables. Et il insiste énormément sur le numérique et l'intelligence artificielle, l'IA. Il faut former les jeunes à ça, massivement.
Et concrètement, comment on fait cette révolution? Il donne des pistes?
Oui, il donne plusieurs recommandations. Réduire vraiment la taille des classes, accélérer la rénovation des écoles, en priorité dans le rural, généraliser un enseignement préscolaire de qualité pour tous les enfants, mieux orienter les élèves, développer des filières de formation pointues en lien avec les entreprises, revaloriser le métier d'enseignant, leur formation, et utiliser le numérique beaucoup plus pour que tout le monde ait accès au savoir pour personnaliser l'apprentissage.
L'objectif final, c'est quoi? Redonner confiance dans l'école publique?
C'est exactement ça. Restaurer la confiance des Marocains dans leur école. C'est un enjeu énorme.
Et justement, puisqu'on parle de numérique et d'IA, il y a aussi un article de Hicham El Adnani qui explore le futur de l'influence digitale au Maroc. C'est un monde en plein boom, ça.
Oui, El Adnani décrit un paysage qui change très, très vite. Aujourd'hui, l'influence, c'est surtout des créateurs de contenu, des humains. Mais demain, avec l'IA générative, les avatars virtuels créés par ordi, les deepfakes, ça va tout transformer.
Les deepfakes, ces fausses vidéos ultra réalistes, ça ouvre des possibilités, mais ça fait peur aussi, non?
Exactement. Il y a des opportunités, c'est vrai, pour les créateurs marocains, par exemple. Les outils pour créer du contenu deviennent plus faciles d'accès, on peut toucher un public international plus facilement.
Oui, ça démocratise un peu la création, mais les menaces?
Elles sont importantes. D'abord, un risque économique pour les influenceurs humains. L'IA peut créer du contenu à la chaîne pour pas cher. Ça crée une nouvelle concurrence. Mais le plus grave, selon El Adnani, c'est le risque de désinformation massive.
Avec les deepfakes, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui.
Voilà. Créer de fausses déclarations, de faux événements qui ont l'air vrais, c'est un outil de manipulation de l'opinion potentiellement très puissant. Et puis, il y a l'arrivée des influenceurs virtuels, des personnages créés de toutes pièces par l'IA. Ça pose des questions d'authenticité, de transparence. Est-ce qu'on sait qui est derrière? Quelles sont les intentions?
Commercial, idéologique, et tout ça, ça soulève la question de la souveraineté. Qui contrôle ces outils, ces IA?
C'est le point central pour El Adnani. Pour l'instant, ces IA génératives, elles sont développées et contrôlées par quelques géants technologiques, surtout américains ou chinois.
Donc, un risque de dépendance pour le Maroc, hein?
Une double dépendance même. Technologique, parce qu'on utilise leurs outils, et informationnelle, parce qu'une grande partie de ce qu'on voit, de ce qui nous influence, pourrait être façonnée par des algorithmes et des acteurs étrangers.
L'enjeu, c'est donc de garder une forme de contrôle, de souveraineté numérique et informationnelle. Pas simple face à ces géants.
Pas simple du tout. Ça demande de développer des alternatives locales, ou au moins des règles, des régulations adaptées. C'est un énorme défi.
Bon, on a vu pas mal de défis, sociaux, économiques, technologiques, une gouvernance qui pose question. Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir, des projets qui pourraient tirer le pays vers le haut, d'après Ideba? Le Mondial 2030 de foot, par exemple. Le Maroc le co-organise, ça va être vu comme une opportunité, non?
Ah oui, absolument. Iqbal Saya écrit un article là-dessus, « La méthode mondiale ». Pour elle, cette Coupe du Monde 2030, c'est bien plus qu'un événement sportif. C'est une chance historique.
Une chance pour l'image du pays, bien sûr.
Oui, mais pas seulement. C'est surtout une chance, selon elle, d'imposer une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode d'action publique, basée sur l'excellence, la rigueur.
La méthode mondiale, c'est-à-dire ?
Financière, la responsabilité sociale, environnementale, dans tout ce qui touche à l'organisation.
Une sorte de test grandeur nature pour l'administration, les entreprises marocaines.
Exactement.
Qui pourrait laisser un héritage positif en termes de méthode de travail.
C'est exactement l'idée, un stress test positif comme tu dis. Et Saya, elle fait le lien entre cette exigence d'excellence pour le mondial et la nécessité de s'attaquer aux problèmes de fond du pays, aux fractures sociales, territoriales.
Le mondial comme un levier pour améliorer les choses plus largement.
Oui, pour viser à un Maroc des excellences, mais un Maroc qui soit vraiment inclusif. Et pour ça, elle dit qu'il faut investir massivement dans l'éducation, mieux gérer les talents qu'on a au Maroc, pour éviter qu'ils partent. La fuite des cerveaux, pour elle, c'est un problème majeur pour l'avenir.
D'accord. Et cette vision du mondial comme transformateur, elle est complétée par un autre article, non ? Qui insiste sur la culture ?
Oui, celui d'Abdeljalil Laroumri. Lui, il plaide pour que ce mondial 2030 ne soit pas juste du foot et des stades neufs. Il veut que ce soit une vraie épopée culturelle marocaine.
Une épopée culturelle, qu'est-ce qu'il met derrière ce mot ?
Il imagine que c'est l'occasion rêvée de mettre en valeur l'immense richesse du patrimoine marocain, matériel et immatériel. Il parle d'avoir une signalétique hyper soignée, trilingue, arabe, amazir avec l'alphabetie finag, et puis anglais, espagnol ou français partout, sur les monuments, dans les rues, pour vraiment mettre en avant les langues nationales.
Ce serait beau, ça. Et le patrimoine historique ?
Il rêve d'une mise en valeur spectaculaire des sites archéologiques. Il cite Volubilis, les gravures rupestres du Sahara. Et puis, promouvoir les arts vivants. Organiser des festivals, créer des routes, des conteurs pour faire revivre cette tradition orale.
L'idée, c'est de transformer le Maroc en une sorte de livre ouvert pendant le mondial, où chaque lieu, chaque événement raconte quelque chose de la culture marocaine.
C'est tout à fait ça, une vitrine vivante. Et l'archéologue, il insiste aussi sur quelque chose d'important. Rendre hommage aux légendes du sport marocain. Pas seulement les footballeurs, d'ailleurs.
Ah oui, comme qui, par exemple?
Il cite des noms comme Larbi Ben Barek, le grand footballeur d'avant-guerre, le marathonien Abdeslam Radi, et bien sûr, des footballeurs plus récents comme Badouzaki, Mohamed Timoumi. Pour lui, célébrer ces héros populaires, ça fait partie de l'épopée culturelle. Ça renforce la fierté, la cohésion nationale.
Donc, une vision très riche du mondial qui va bien au-delà du sport. Pour revenir au numérique, qui est aussi un enjeu d'avenir, Azzedine Benani, lui, creuse cette idée de souveraineté numérique marocaine.
Oui, Anneni, cette ambition qu'on entend souvent d'avoir une solution numérique 100% marocaine, il apporte une nuance intéressante. Pour lui, c'est plus un horizon stratégique, quelque chose à viser à long terme, qu'une réalité qu'on peut atteindre tout de suite. et peut-être même pas souhaitable.
Pourquoi pas souhaitable ?
Parce que dans un monde aussi globalisé, surtout pour la technologie, vouloir tout faire soi-même, c'est très compliqué, voire impossible. Pour lui, la vraie souveraineté numérique, elle est ailleurs.
Elle est où alors, selon lui ?
Elle est dans la résilience de l'écosystème numérique national. C'est ça le mot-clé.
Est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sécuriser les approvisionnements en logiciels, en matériel important, mettre en place une défense solide contre les cyberattaques, avec des moyens de détecter vite et de réagir. Il parle des SOC, les centres opérationnels de sécurité, connectés à l'agence nationale Macert. Surveiller les menaces en permanence.
D'accord, la sécurité avant tout.
Oui. Mais pas seulement. C'est aussi faire en sorte que les citoyens s'approprient ces outils. Et pour ça, il faut des interfaces dans les langues nationales, en arabe et en amazigh. Et puis, dernier point essentiel, encourager la recherche et le développement au Maroc, pour avoir nos propres compétences, nos propres solutions spécifiques quand c'est nécessaire.
Donc c'est une approche plus globale, plus pragmatique peut-être, moins chercher à tout fabriquer marocain, mais plutôt maîtriser l'ensemble de l'écosystème, réduire les dépendances là où c'est critique.
C'est exactement la vision que Benani défend. Une souveraineté basée sur la maîtrise, la sécurité, l'adaptation, plutôt que sur une autarcie qui serait illusoire.
D'accord, c'est très clair. Et pour finir sur ces perspectives d'avenir, il y a un appel assez ambitieux lancé par Adnan Ben Chakroun concernant l'intelligence artificielle et la place du Maroc en Afrique.
Oui, c'est une lettre ouverte, en fait, adressée à la ministre de la Transition numérique. Et Ben Chakroun, il lance une idée forte, créer au Maroc un think tank, un groupe de réflexion, mais à l'échelle panafricaine. Et ce think tank serait entièrement dédié à la question de la singularité technologique.
La singularité technologique, c'est ce moment hypothétique où l'IA deviendrait tellement puissante qu'elle nous dépasserait, c'est ça ?
C'est l'idée, oui. Ce point où le progrès technologique, surtout en IA, deviendrait si rapide, si profond qu'il échapperait peut-être au contrôle humain et transformerait radicalement notre monde.
Et donc, un groupe de réflexion africain pour réfléchir à ça, pour anticiper. C'est une grosse ambition. Quel serait son rôle précisément ?
Selon Ben Chakroun, ce serait multiple. D'abord, essayer d'anticiper les impacts que ces avancées de l'IA pourraient avoir spécifiquement sur l'Afrique, sur les sociétés, les économies, les cultures. Ensuite, aider les pays africains à adapter leurs stratégies. Travailler à protéger la souveraineté numérique et même cognitive de l'Afrique, face à ces technologies qui viennent souvent d'ailleurs. Et surtout, former la jeunesse africaine, pour qu'elle ne soit pas juste consommatrice de l'IA, mais qu'elle participe, qu'elle crée, qu'elle soit actrice.
L'idée, c'est de positionner le Maroc comme un leader intellectuel sur ces sujets cruciaux pour l'avenir, pour aider l'Afrique à ne pas juste subir cette révolution de l'IA, mais essayer de la comprendre, de l'orienter, d'en profiter.
C'est tout à fait l'ambition affichée dans cette lettre ouverte. Une vision proactive, que l'Afrique définisse sa propre voie face à ces bouleversements technologiques, plutôt que de se voir imposer celle des autres. Et le Maroc pourrait être le moteur de cette réflexion continentale.
Bien. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu dans ce numéro d'e-débat, ce qui frappe vraiment, ce sont les contrastes, non ? D'un côté, on sent une société civile, une jeunesse, qui exprime clairement une envie de changement, qui sont lucides, parfois même assez dures, sur ce qui ne va pas. Et face à ça, une gouvernance qui est souvent critiquée pour sa distance, son manque d'efficacité perçue.
Oui, ce contraste est très net. Et de l'autre côté, on voit que les défis socio-économiques restent énormes. Le chômage des jeunes, on l'a dit, c'est dramatique. L'école publique qui est sous pression, le système de santé dont le drame d'Agadir a montré les faiblesses. Et tout ça, ça coexiste avec des projets d'avenir qui sont, eux, extrêmement ambitieux, très mobilisateurs.
Comme réussir un mondial qui soit exemplaire, qui transforme les choses, atteindre une souveraineté numérique qui soit réaliste et efficace, ou même devenir un pool de réflexion sur l'IA pour toute l'Afrique.
Exactement. C'est ce mélange qui est frappant. Ces débats internes, qui sont parfois vifs, souvent très directs dans la critique, ils nous montrent un Maroc qui est très conscient de ses problèmes, de ses failles, de ses fractures. Mais aussi un Maroc qui est conscient de son potentiel et qui a de grandes aspirations. Un pays qui semble vraiment à un tournant.
À la croisée des chemins.
C'est ça. Et ça nous laisse, à la fin de cette discussion, avec une grande question, une interrogation pour l'avenir, finalement. Face à ces constats lucides, parfois sévères, et ces ambitions très hautes, quelle voie le Maroc va-t-il vraiment prendre dans les années qui viennent ?
Est-ce qu'on va assister à une transformation assez profonde pour répondre aux attentes des citoyens, qui sont fortes et urgentes, et pour atteindre cette fameuse excellence qu'on vise pour 2030 et au-delà? Ou est-ce que le pays va rester un peu dans cet entre-deux, cet équilibre parfois précaire, entre les grandes annonces de réforme et puis des réalités sur le terrain, social, économique, de gouvernance, qui ont du mal à suivre le rythme des ambitions?
C'est toute la question qui ressort de cette plongée dans les débats marocains d'aujourd'hui. Une question qui va rester ouverte, c'est sûr, et qui animera encore beaucoup de discussions, bien au-delà de notre échange.